Un journal présenté par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Il faut améliorer le quotidien des personnels de santé. Le temps de travail à l'hôpital n'est pas un tabou. Deux déclarations signées Édouard Philippe en ouverture du Ségur de la Santé. Nous ferons le point avec Tara Schlegel. Le confinement a creusé la fracture numérique. Le défenseur des droits Jacques Toubon a évoqué le sujet aujourd'hui au Sénat devant la mission d'enquête sur la lutte contre l'électronisme, le compte-rendu de Margot Delpierre. Bruno Le Maire admet que Renault va sans doute fermer des usines et supprimer des emplois en France. En contrepartie, le ministre de l'Économie exige du constructeur automobile un engagement écologique, l'analyse d'Anne-Laure Jumet. L'ambassade de Chine à Paris publie une violente caricature anti-américaine sur son compte Twitter. Devant le tollé suscité, le tweet a été retiré. Les explications à venir de Bertrand Galichet. Édouard Philippe a lancé cet après-midi le fameux Ségur de la Santé, cette vaste concertation destinée à tirer les leçons de la crise sanitaire. L'objectif est d'aboutir à des décisions en juillet pour améliorer le fonctionnement de l'hôpital public. En préambule, le Premier ministre a promis un changement dans le quotidien des personnels soignants. Il s'est également dit prêt à aborder la question ô combien sensible du temps de travail. En fait, Tara Schlegel, Édouard Philippe a voulu tracer le cadre général de la concertation.
Loin d'être un mea culpa, le discours du Premier ministre s'est voulu d'abord une défense des réformes que son gouvernement a déjà impulsées au système de santé. Un système qui s'est montré remarquable dans la crise grâce au dépassement individuel et collectif et qui a mieux résisté que ses voisins, s'est félicité Édouard Philippe. Bien sûr, il y a des enseignements à tirer, dit-il, notamment le choc de simplification. Pendant l'épidémie, dans l'urgence, bien des carcans administratifs ont sauté et il faudra s'en inspirer. Mais globalement, le cap est le bon, répète le Premier ministre, ce qu'il faut, c'est accélérer le rythme. Édouard Philippe a donc tracé 5 chantiers. Le premier est sans doute le plus neuf, le plus attendu, puisqu'il note que la hausse des rémunérations sera substantielle, comme celle du budget des hôpitaux. Il promet une amélioration concrète de la vie quotidienne des soignants. Il a quand même glissé, comme vous l'avez dit Stanislas, un mot du temps de travail qui ne doit pas être tabou, ce qui risque de faire jaser. Le reste des chantiers a déjà été énoncé plusieurs fois. Les discussions vont porter sur la T2A, donc le financement des actes à l'hôpital. L'accent sera mis sur la qualité. Il s'agit aussi de mieux coordonner hôpital et médecine de ville, d'accélérer la télémédecine et le numérique. Édouard Philippe a donc balayé tout le champ, en quelque sorte, de la loi Ma Santé 2022 qu'il veut amplifier. Mais il note aussi que le gouvernement, en toute humilité, ouvrira d'autres espaces s'il y a des lacunes. Bref, il s'agit maintenant d'écouter les acteurs de terrain. Et ils étaient 300 cet après-midi par visioconférence. Des acteurs qui ont à peine 2 mois pour conclure.
Tara Schlegel, merci. Alors, pour bien comprendre les attentes des personnels soignants, je vous propose le témoignage d'une infirmière en hématologie, Aurélie Jochot, et militante syndicale. Elle se bat pour une augmentation des salaires pour tous ceux qui débutent à moins de 1 400 €, infirmières, aides-soignants, brancardiers, ouvriers, agents administratifs. Aurélie Jochot qui dénonce une détérioration de la prise en charge des malades. Elle le constate dans son service où elle soigne des patients atteints de cancer du sang.
Ce qui a fait exploser les choses, c'est que ça se dégrade et qu'on a de moins en moins de capacité de s'occuper des patients. C'est quand même des maladies très très graves. Il y a des patients, il faut rester une heure dans la chambre pour discuter avec eux. Mais ça se compte pas, on peut pas. En hématologie, par exemple, le repas qui passe le mieux, c'est le petit déjeuner, parce que celui-là, c'est celui qui a le moins d'odeur. Donc, il y a des patients, bah oui, ce qu'il faudrait, c'est qu'ils aient un petit déjeuner, peut-être le matin, le midi et le soir. Mais sauf que là, on nous rationne le nombre de petits pains, c'est 1, 2, mais voilà, ça sera pas plus. Le nombre de petits beurres est rationné, voilà, et tout est calculé. Vous arrivez le matin, vous dites on peut pas vous changer vos draps, on peut pas vous changer votre surblouse, il faut attendre que la commande arrive parce qu'on est limité. Tout ça, c'est ça qui pèse et qui font que des nouvelles infirmières qui ont fait 3 ans d'études, elles me disent au bout de 3 ans, je ne supporte plus ce boulot. Enfin, l'hôpital, c'est une mini-société, on est tous un petit maillon de la chaîne, qu'on soit infirmière, aide-soignante, électricien. Moi, je le dis tout le temps, le chirurgien, il peut pas opérer s'il n'y a pas un électricien pour faire fonctionner le bloc. On fonctionne tous pour le patient et là, ce qu'on voit, c'est que la chaîne, les maillons, ils sont en train de lâcher.
Aurélie Jochot, infirmière en hématologie, elle répondait t'arraches les gueules. Plan hôpital, quel prix pour la santé? C'est la question que posera Emmanuel Laurentin à ses invités dans le temps du débat juste après ce journal. Direction le Sénat à présent pour évoquer l'audition du défenseur des droits Jacques Toubon par la mission d'information sur la lutte contre l'illectronisme. L'illectronisme, c'est la difficulté, voire l'incapacité à utiliser des appareils ou des outils informatiques. Cette mission sénatoriale a été créée avant la crise du coronavirus, mais elle prend encore plus de sens aujourd'hui, car depuis le confinement, nous sommes contraints d'intensifier l'usage des outils numériques pour effectuer par exemple des démarches en ligne. Certains n'en ont tout simplement pas les moyens, et la crise sanitaire a exacerbé les inégalités à ce sujet. Margot Delpierre.
La période qu'on vit doit inciter les pouvoirs publics à adapter les outils numériques, a expliqué le défenseur des droits pendant cette audition en visioconférence. Jacques Toubon l'a rappelé, 13 millions de personnes déclarent avoir des difficultés avec le numérique, des problèmes d'équipement ou de capacité à utiliser ces outils. Le confinement a parfois creusé les inégalités en la matière parce que les lieux d'accompagnement pour les publics qui en ont besoin étaient pour la plupart fermés. Parmi les personnes ayant de bas revenus par exemple, 40% n'ont aucune connexion internet. Ce taux atteint seulement 57% chez les plus de 70 ans, alors qu'il est de 85% pour l'ensemble de la population. Les handicapés, les majeurs protégés et les détenus doivent faire l'objet d'une attention particulière, selon lui. Dans les premiers jours du confinement, le remplissage de l'attestation n'était pas adapté aux personnes porteuses d'un handicap, déplore le défenseur des droits. Quand le tuteur d'un majeur doit effectuer des démarches en ligne, il n'existe pas d'accès spécifique pour lui, et un détenu qui doit tout simplement renouveler sa carte d'identité se retrouve face à des procédures multiples inadaptées à sa situation. Il souhaite que l'investissement qu'on fait pour la transformation numérique soit fait à la même hauteur pour l'accompagnement des usagers. C'est l'état de droit et la cohésion sociale qui sont en cause dans notre pays, assure Jacques Toubon. Et il y a urgence car le gouvernement a pour objectif de dématérialiser 100% des services publics en 2022.
Margot Delpierre, merci. Je ne peux pas dire qu'il n'y aura pas de suppression de postes chez Renault, ce ne serait pas responsable. Déclaration ce matin de Bruno Le Maire à quelques jours du plan d'économie que doit présenter le groupe automobile. Une petite phrase du ministre de l'économie qui intervient au moment où Renault envisagerait de fermer 3 de ses sites français. Il serait aussi question de l'arrêt de la production automobile sur le site de Flins. Bruno Le Maire souhaite en revanche que la firme aux losanges s'engage dans l'Airbus des batteries. Anne-Laure Jumet, bonsoir.
Bonsoir.
Pour aider Renault, le gouvernement pose donc ses conditions, mais il déplace ses exigences sur le terrain écologique plutôt que sur le terrain social.
Oui, même si ça semble contradictoire avec les déclarations la semaine dernière d'Édouard Philippe à l'Assemblée, le Premier ministre avait alors assuré que le gouvernement serait intransigeant sur la préservation des sites de Renault en France. Mais à Bercy, on explique que le groupe automobile joue là sa survie et exiger de lui de ne pas fermer d'usine le plongerait tout droit vers la faillite, comme l'a justifié ce matin Bruno Le Maire sur BFM TV.
Renault sera toujours moins compétitif et Renault continuera à être en péril. Et dans 2 ou 3 ans ou dans 4 ans, il y aura un ministre de l'économie qui malheureusement sera obligé de dire que voilà, on met la clé sous la porte de Renault parce qu'on n'a pas permis à Renault de se renouveler, de se moderniser et de rester dans la course mondiale de l'industrie automobile qui est féroce.
Seule contrepartie sociale formulée par le ministre de l'économie, que le site de Flins ne soit pas fermé. Mais ce qui est de toute façon à l'étude, vous le disiez, n'est pas une fermeture, mais une réorientation de l'activité d'ici quelques années. L'engagement réclamé désormais à Renault porte donc sur l'écologie et une entrée dans ce projet d'Airbus des batteries, qui a pour objectif de contrer la domination asiatique sur ce marché, qu'il devienne actionnaire de ce projet et même présenté comme une condition pour l'obtention de son prêt garanti par l'État de 5 milliards d'euros. Mais en réalité, les jeux sont faits. Le groupe a dit oui, il n'a pas vraiment le choix. Initialement, il avait boudé ce projet, associant son rival PSA à une filiale de Total. L'usine pilote en France avait d'ailleurs été inaugurée fin janvier en Charente, avec pour objectif de sortir ses premières batteries à l'été 2021.
Anne-Laure Jumet, merci. Une autre déclaration importante de Bruno Le Maire. Ce matin, le ministre s'est déclaré favorable à un report des soldes prévu le 24 juin. Avec le confinement et la fermeture des magasins, les stocks se sont accumulés et la crise a ravivé le conflit entre les petits commerçants et les grandes enseignes. Ces grandes enseignes qui veulent des soldes rapides pour écouler les invendus et renflouer leur trésorerie. Au contraire, les petits commerçants souhaitent ce report, d'où la satisfaction de François Colombie. Il est président de la Fédération des commerçants de France qui représente le commerce indépendant.
Les difficultés que connaissent les jeunes, soit les étudiants ou des jeunes précaires, c'est que par exemple les restaurations étudiantes, les restos Crous se sont arrêtés, les circuits d'aide alimentaire pour les jeunes précaires se sont arrêtés, et donc une montée des dépenses d'alimentation, et aussi beaucoup la question du téléphone internet, et face à ça, leurs ressources ont baissé. C'est pour ça qu'il était urgent de mettre en place des mesures de solidarité pour ces jeunes qui ne bénéficient pas d'aide sociale. Il y a 200 euros qui vont être versés pour les étudiants qui ont une perte de revenus, soit il y a un stage, soit il y a un job qu'ils ont perdu. Et puis, il y a des jeunes précaires qui vont bénéficier d'un versement de 200 euros quand ils sont bénéficiaires des APL, donc des allocations logement. La problématique est d'une part le délai, ce versement n'arrivera que mi-juin, alors que la crise a commencé mi-mars. La deuxième difficulté fait qu'il y a tout un nombre de jeunes importants, les plus précaires, qui n'ont pas de logement autonome. Donc c'est des jeunes qui sont à la rue, sans abri. Il y a des jeunes qui sont hébergés chez des tiers, dans leur famille, dans des centres d'hébergement d'urgence, dans des squats. Et ces jeunes-là, donc, ne touchent pas, de fait, les APL. Et donc, ne vont pas bénéficier de l'aide directe qui va être versée par l'État. Et donc, aujourd'hui, ne bénéficient pas de mesures de solidarité exceptionnelles. Ça met vraiment en lumière les trous dans notre raquette de notre système de protection sociale.
François Colombi de la Fédération des commerçants de France, il répondait à Catherine Pétillon. Bercy a précisé aujourd'hui les nouvelles règles du chômage partiel à partir du 1er juin. Pour les salariés, la prise en charge du salaire ne change pas, mais pour les entreprises, eh bien, ces entreprises seront remboursées de 60% du salaire brut contre 70% aujourd'hui. Christophe Castaner ne saisira pas la justice après les propos incendiaires de Camélia Jordana. La chanteuse et actrice avait accusé les policiers, je cite, de massacrer des hommes et des femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue pour nulle autre raison que leur couleur de peau. Fin de citation. Le ministre de l'Intérieur condamne ces propos qu'il qualifie de mensongers et honteux. Mais Christophe Castaner ne portera pas plainte contre Camélia Jordana car il se dit très attaché au débat public. C'est une polémique qui tombe au plus mauvais moment pour Boris Johnson. Le Premier ministre britannique veut garder son conseiller spécial Dominic Cummings, accusé d'avoir violé le confinement. Dominic Cummings qui doit s'exprimer d'ici ce soir pour justifier ses visites chez ses parents à 400 km de Londres à la fin mars. On retrouve en direct de Londres Antoine Gignot. Bonsoir.
Bonsoir.
Antoine, les appels à la démission de Dominic Cummings se sont multipliés ces dernières heures, y compris dans les rangs conservateurs.
Avec une vingtaine de députés, oui, qui réclament le départ du conseiller spécial de Boris Johnson. Il est en ce moment d'ailleurs devant les journalistes en train de leur répondre, Dominic Cummings. Pas de regrets, pas d'excuses. J'ai agi, dit-il, de manière responsable et légale face à une situation complexe. Et il raconte sa femme qui tombe malade, le moment où lui-même commence à se sentir mal, les premiers symptômes et la décision prise tard le soir de partir en voiture vers la propriété familiale de Durham, à 5 heures de route de Londres, sans prévenir le Premier ministre. C'était peut-être une erreur, dit-il, mais les règles du confinement prévoient des exceptions lorsque la sécurité d'enfants en bas âge est en jeu. Il s'agissait, dit-il, de circonstances exceptionnelles avec mon enfant de 4 ans. Je pense que j'ai fait le bon choix. Et face à ceux qui l'accusent d'être allé alors qu'il était en province se promener dans les bois et dans une localité touristique située à une demi-heure de voiture, il répond « Je n'ai pas quitté la propriété familiale, sauf une fois parce que j'envisageais de rentrer le lendemain à Londres en voiture et ma femme se demandait si j'étais capable de conduire. C'était donc un test. Je suis sorti de la voiture, reprend Dominic Cummings. Je me suis assis près de la rivière et puis je suis reparti. Le lendemain, je suis rentré à la capitale. » Dominic Cummings qui précise aussi que comme le reste de la population, il n'est pas allé à l'enterrement d'un proche à cause du confinement et qu'il a respecté la totalité des règles. Pas suffisant pour éviter cette question des journalistes anglais. Le Premier ministre a martelé sur tous les tons le slogan « Restez chez vous, vous êtes son principal conseiller. Est-ce qu'il aurait réussi à convaincre tout le monde, sauf vous ?
Antoine Gignot, correspondant au Royaume-Uni en direct de Londres, merci. Que se passe-t-il à l'ambassade de Chine en France ? Le compte Twitter de la représentation chinoise à Paris a publié ce week-end une caricature douteuse accusant les États-Unis de vouloir intervenir à Hong Kong. Bertrand Galichet, le tweet a été retiré et l'ambassade de Chine affirme désormais que son compte a été piraté.
La caricature représente la mort habillée d'un linceul aux couleurs des États-Unis et portant une faux sur laquelle certains pensent voir une étoile de David. La mort frappe à une porte marquée Hong Kong dans un couloir où d'autres portes déjà ouvertes, symbolisant notamment l'Irak, la Syrie et le Venezuela, laissent échapper des traces sanglantes, le tout intitulé « Qui sera le prochain ?». un tweet visible brièvement avant d'être retiré, l'ambassade de Chine plaidant un piratage de son compte. Ce dessin serait le détournement d'une première caricature où la mort vêtue du drapeau chinois frappait aux portes de la Mongolie intérieure, du Xinjiang, du Tibet, de Hong Kong et de Taïwan. L'ambassade de Chine à Paris avait déjà suscité la colère de la diaspora ouïghour en souhaitant sur Twitter une bonne fin de Ramadan alors que des centaines de milliers de musulmans seraient internés dans des camps du nord-ouest de la Chine. Le mois dernier, l'ambassadeur chinois en France a été convoqué au Quai d'Orsay après la publication d'une tribune non signée, accusant notamment les personnels français des EHPAD d'avoir abandonné leurs pensionnaires.
Bertrand Galichet, merci. En Espagne, la quarantaine imposée aux touristes étrangers sera levée le 1er juillet. Précision aujourd'hui du gouvernement socialiste qui complète la réouverture des frontières au tourisme international annoncée samedi. Le retour des touristes est crucial pour l'Espagne, deuxième destination mondiale derrière la France. Le secteur du tourisme représente 12% du PIB espagnol. Le temps demain, beau et chaud sur la majeure partie du pays. Seuls quelques nuages élevés viendront perturber le ciel bleu dans les Hauts-de-France et le nord-est. Les températures minimales seront comprises entre 9 et 19 degrés du nord au sud. Pour les maximales, comptez de 21 à 30 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.